Bonjour et bienvenue à ce nouveau partage. Aujourd'hui, on est encore en intimité. Et puis, on veut saluer les gens qui nous écoutent sur Internet, les gens de Radio Prédication, les gens du Top Chrétien. Que Dieu vous bénisse abondamment, adorateur en esprit et en vérité. Que le Seigneur vous bénisse. On veut saluer nos collaborateurs, Michel, Réginal, et puis tous les gens qui nous supportent là, dans l'œuvre du Seigneur. Merci à tous. On veut saluer Claire et Nathan qui nous écoutent. Et puis, on espère que tout va bien pour vous. Et puis, si vous voulez, on va prier, on va remettre ça au Seigneur et puis on va commencer. Mais Père, Seigneur, on veut se courber devant toi. On veut t'exalter, Seigneur, ce soir. On veut proclamer que tu es notre grand Dieu et que tu es le grand Seigneur souverain sur tout. Et puis, on veut te dire merci, Seigneur, pour l'œuvre de Jésus à la croix. Merci pour son corps brisé pour nous, pour son sang versé pour nous, Père. Et puis, on ne veut pas être familier avec l'œuvre du Seigneur. Et puis, Seigneur, on veut se présenter devant toi pour te présenter nos transgressions. On veut se faire laver les pieds, Seigneur, comme tu l'as dit. Sans toi, on ne peut rien faire. Et puis, on veut te remettre toutes nos iniquités, Seigneur, tous nos manquements qui sont plus nombreux que les cheveux de notre tête. Tous nos excès, Seigneur, toutes nos mauvaises pensées, nos convoitises, nos mauvaises façons de s'exprimer. Nos excès d'orgueil. Et puis, Seigneur, on te demande pardon dans le nom de ton Fils Jésus qui a justement fait le plein paiement pour que nous puissions marcher en règle avec toi et avec tes préceptes. Et puis, Seigneur, c'est en son nom qu'on te prie, on te demande ce pardon. Et puis, Seigneur, on te prie ce soir pour que tu puisses arroser nos âmes, Seigneur, nous enseigner, nous exhorter, nous guérir. Que nos âmes soient arrosées de ta parole, Seigneur, qu'on puisse recevoir ta paix. On te prie, Seigneur, pour que le Saint-Esprit règne. Le Saint-Esprit règne dans nos vies et dans nos cœurs. Et puis que tu puisses mettre tes mots dans ma bouche, Seigneur, pour ce partage. Et puis c'est dans le précieux nom de Jésus qu'on prie ce soir. Amen. Donc, comme vous le savez, nous étions à l'étude du livre de l'Épître des Galates. L'Épître aux Galates. Et puis, on avait terminé la dernière partie du chapitre 2. Donc, si vous voulez, on va faire une révision. Je vais peut-être faire des pauses si le Seigneur me met à cœur de ça, pour ça. Mais ça se peut aussi que je n'en fasse pas. Ça va être selon ce que le Saint-Esprit me souffle. Donc, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe peu. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Église m'avait été confiée, que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyé par Jacques, il mangeait avec les païens. Souvenez-vous, c'était un peu la partie du partage, et c'est un peu un phénomène qu'on retrouve aujourd'hui. C'est qu'on est chrétien, mais seulement deux fois par semaine, lorsqu'on va à l'église. Et puis, manger avec les païens, ça veut dire avoir la même vie que les païens. C'est-à-dire adhérer au même type de vie que les païens, c'est-à-dire que les gens qui sont pas sauvés, qui vivent dans le monde pour le monde. Et puis nous, on était mis à part. Hein. Vous savez qu'on n'a pas à être des consommateurs de ce que tout le monde a à offrir, mais on a à être des gens qui s'abreuvent et qui s'inspirent de la parole de Dieu par le Saint-Esprit pour vivre dans ce monde déchu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut se faire laver les pieds, parce qu'on marche dans un monde qui est déchu. Et puis, on a déjà été lavé, mais on a besoin de se faire laver les pieds. Et puis, principalement, pour rester en communion avec notre Seigneur. Et puis, Paul il fait des réprimandes à son frère Céphas. Et puis il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, on voit que c'est le féminin qui est utilisé. Bon, ça nous indique que les païens dont il parlait, c'était probablement des femmes. Il s'esquiva et s'étend à l'écart par crainte des circoncis. Donc, il n'y avait pas ce que les autres vont dire. Fait qu'il a dit, hey, eux autres, ils arrivent. Moi, je veux pas être vu qu'eux autres. Vous voyez que quand il est à l'église, il y a un autre comportement. Hein? Puis ça, on voit ça aujourd'hui dans nos églises. On voit ça dans nos comportements, pas juste dans les églises, mais on parle dans l'église de Jésus-Christ. C'est que les gens, ils se comportent pas de la même façon à l'église que ce qu'ils se comportent dans le monde. Et puis, Paul fait la remarque de ça à Pierre. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leurs hypocrisies. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi tu es Juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser, c'est-à-dire à vivre comme des Juifs? Pourquoi tu demandes aux gens dans le monde de vivre comme des Juifs, quand toi-même, tu ne te comportes même pas? » Donc, nous autres, on pourrait phraser ça différemment. Donc, on pourrait dire, pourquoi tu demandes aux gens dans le monde de se comporter comme des chrétiens quand toi-même, tu te comportes même pas comme un chrétien, tu te comportes exactement comme des gens qui vivent dans le monde. Nous, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, nous, on pourrait dire, nous sommes nés de nouveau dans le royaume de Dieu et non des gens du monde. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Amen! Donc, les œuvres de la loi, là, Paul va planter, va taper sur le clou le reste de ce partage, le reste de ce chapitre-là. Et puis, on va voir qu'au début du chapitre 3, c'est la même chose. On parle beaucoup de la justification par la foi. Donc, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas nécessaire de montrer à tout le monde ce que tu fais dans l'Église, parce que de toute façon, c'est pas ça qui te sauve. Puis ce que tu vas faire, mais ça s'appelle les œuvres de la loi, c'est les œuvres de la chair. Donc, les seules œuvres qui ont de l'importance, c'est ceux que Dieu a préparés d'avance, qui sont guidés par le Saint-Esprit. Alors, en Christ et non par les œuvres. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi, mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il le ministre du péché? Ah! C'est-tu à cause que Christ a été a payé pour nos péchés que je peux avoir un ticket, un billet pour le péché? Loin de là! Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort. C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Et le verset clé. Hein? Afin de vivre pour Dieu. Ça, c'est un point important. Afin de vivre pour Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nos vies de chrétiens, est-ce qu'on peut dire que nos vies sont pour Dieu? La seule façon de répondre oui à cette question, savez-vous quoi? C'est d'être certain que j'ai une relation quotidienne, personnelle avec Dieu et que je marche dans le chemin qu'il a tracé dans mon cœur. C'est la seule façon que je peux répondre oui. Si je suis à l'église, je fais des œuvres, je fais je suis toutes les cours parce que les enseignants nous disent qu'il faut suivre des cours, qu'il faut, puis que je me rends compte que je suis chargé, que j'ai un fardeau, eh bien, est-ce que je vis pour Dieu? C'est la question. Est-ce que je vis pour Dieu? Est-ce que Dieu me demande vraiment de faire ça? Et puis ça, ben, c'est le ministère d'une vie, hein? D'apprendre à vivre selon les préceptes de Dieu, d'apprendre à vivre, sous l'inspiration du Saint-Esprit pour devenir un serviteur, un ambassadeur, hein? C'est nos buts ultimes. Alors, nous étions rendus. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et voilà la phrase. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Oui, c'est vrai, je vis dans un corps déchu, mais je suis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Et puis, la vie que je devrais avoir, ça devrait être une vie qui manifeste Christ autour de moi. Et c'est un peu ce que Paul nous dit dans ses Écritures. Donc, je vis dans la foi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, la loi a été donnée 400 ans après que la justice fut imputée à Abraham. On voit ça dans le prochain partage. Et puis, vous savez que la loi a été donnée aux hommes pour faire la démonstration qu'on ne pouvait pas, qu'on n'avait pas la capacité de suivre la loi. Et puis, c'est pour se rendre compte de ça. Puis, premièrement, c'est parce que le peuple a demandé, si vous vous souvenez bien, là, à leur sortie d'Égypte, donne-nous des lois. Puis, ça faisait déjà plusieurs années, des centaines, sinon des milliers, que Dieu avait instauré la communication avec ses enfants, puis il n'y avait pas de loi. Avant Abraham, est-ce qu'il y avait des lois? Dites-moi. La loi fut donnée à Moïse, mais Abraham, est-ce qu'il y avait des lois? Est-ce qu'il vivait sous la loi? Ah! Abraham, les lois, on va voir, est apparu 400 ans après, mais on va voir qu'il n'y en avait pas. C'était exactement comme ça aujourd'hui, c'est que chaque homme était appelé à développer sa relation personnelle avec Dieu lui-même. Et puis, il n'y avait pas de loi. C'est lorsque Moïse, quand le peuple est sorti d'Égypte, que le peuple a demandé, « Donne-nous des lois. » Il voulait un roi, il voulait des lois, et puis « Achale-nous plus avec ta relation. » C'est fatiguant, ça. « Laisse-nous vivre comme on veut, là. Donne-nous tes lois, on s'occupe de ça, achale-nous plus. Hein? » OK, on vous en donne. Il en a donné les lois, mais la loi, ça nous a prouvé qu'on était absolument incapable d'accomplir cette loi-là. Le seul qui était capable d'accomplir cette loi-là, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, qui est venu accomplir la loi par son œuvre à la croix. Donc, si vous voulez, on va continuer. On est rendu à Galates, chapitre 3. Et on va prendre la version Darby, parce qu'elle est plus... C'est la version Darby qui est la plus près de l'original. « Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? » Oh, on parle de quelqu'un qui a reçu un sort ici. Vous, devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. Je voudrais seulement apprendre ceci de vous. Avez-vous reçu l'Esprit sur le principe des œuvres de la loi ou de l'ouïe de la foi? Parce que la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Êtes-vous si insensé? Ayant commencé par l'Esprit, acheveriez-vous maintenant par la chair? Maintenant que vous avez reçu l'Esprit, la liberté en Christ, allez-vous revenir à la chair avec les œuvres de la loi? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur le principe des œuvres de la loi ou l'ouïe de la foi? Comme Abraham crut en Dieu, et cela lui fut compté à justice, lui fut imputé à justice, sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. Et c'est pour ça qu'on est déclarés, nous, des fils d'Abraham. Mais j'ai déjà vu une dame juive qui est venue nous dire à l'église, elle avait été invitée comme conférencière, et elle est venue nous dire que on n'était pas des enfants d'Abraham, nous, parce qu'on n'était pas juifs. Voyez-vous que il y a toute une compréhension des Écritures qui se fait de deux façons. Soit je crois par la foi que je suis un fils d'Abraham, parce que ça dit que, on va le voir plus tard, que tous ceux qui vont avoir cru après vont être de la prospérité d'Abraham. Et puis Jésus-Christ est sorti évidemment de la lignée d'Abraham. Et puis c'est ça. Et puis ça, la parole nous certifie que nous-mêmes, nous sommes des fils d'Abraham, des fils de la foi. Le père de la foi, hein? Sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. Et voilà, je le répète. Or, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. Et puis, je cite, « En toi, toutes les nations seront bénies. » Est-ce que c'est juste la nation juive? Toutes les nations seront en toi, toutes les nations seront bénies. De sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham, qui est le père de la foi. Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de la loi sont sous la malédiction de cette loi qui est impossible à accomplir pour un homme charnel. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Donc, ça, savez-vous quoi ce que ça dit? Ça dit, si tu veux être sous la loi, là, si tu vraiment tu penses que c'est sous ce que tu fais, ben, tu peux pas la faire juste à moitié. Il faut que tu l'accomplisses, la loi, à 100%. Il faut que tu la suives à 100%. Ne serait-ce qu'en penser, nous en sommes incapables. Alors, c'est pour ça que Christ est venu accomplir la loi pour nous. Il le savait, le Seigneur le savait. Donc, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, car cela est évident, parce que le juste vivra par la foi. On retrouve la même expression dans Romains. Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elle. C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que si tu es les œuvres, il va falloir que tu prennes toute la loi, mon ami, que tu fasses tout. Ou tu es sur la foi, ou tu es sur la loi. Mais si tu es sur la loi, tu es perdu parce que tu ne pourras pas. C'est impossible. Il n'y a que Jésus-Christ qui est venu accomplir la loi et on peut accomplir la loi seulement en lui. Alors, je ne sais pas si vous comprenez bien où Paul voulait nous amener ici. Christ, au verset 13, nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Verset 14, « Afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous reçussions par la foi l'Esprit promis. » Frère, je parle selon l'homme, à la manière des hommes. Personne n'annule une alliance qui est confirmée, même celle d'un homme, ni n'y ajoute. Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa semence, il ne dit pas « et aux semences ». Il dit « à sa semence ». Donc, il ne dit pas « et aux semences » comme parlant de plusieurs, mais comme parlant d'un seul et à ta semence qui est Christ, évidemment. Or, je dis ceci, que la loi qui est devenue 430 ans après n'annule point l'alliance antérieurement confirmée par Dieu, de manière à rendre la promesse sans effet. Car si l'héritage est sur le principe de la loi, il n'est plus sur le principe de promesse. Mais Dieu a fait le don à Abraham par promesse. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions. Jusqu'à ce que vint la semence à laquelle la promesse est faite, ayant été ordonnée par des anges, par la main d'un médiateur. Excusez, je suis en train de me reprendre mon souffle. Et puis, le médiateur. Et puis, or, un médiateur n'est pas un médiateur d'un seul, mais Dieu est un seul. La loi est donc contre la promesse de Dieu, qu'ainsi n'advienne. Car s'il avait été donné une loi qui eut le pouvoir de faire vivre, la justice serait en réalité sur le principe de la loi. Donc, si par la loi j'aurais pu survivre, bon, on aurait pu justifier selon la loi. Mais là, maintenant, Paul, il dit, « Je suis désolé, mon ami, mais il n'y a rien de ce que tu peux faire par les œuvres de la chair, les œuvres qui vont faire que tu vas être justifié devant Dieu. Il n'y a seulement que par Jésus-Christ seulement que je suis justifié devant Dieu. » Verset 22, « Mais l'Écriture a renfermé toutes ces choses sous le péché, afin que la promesse sur le principe de la foi en Jésus-Christ fût donnée à ceux qui croient. Or, avant que la foi vînt, nous étions gardés sous la loi, renfermée pour la foi qui devait être révélée, de sorte que la loi a été notre conducteur jusqu'à Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire, Paul, ici. J'ai dit, la loi, là, a dit, ça devrait être évident pour vous autres que vous aviez besoin d'un sauveur, parce que vous n'étiez pas capable de l'accomplir, la loi, telle qu'elle était. Parce que, à cause du péché, à cause de la malédiction, des transgressions, comme Paul dit, afin que nous fussions justifiés sur le principe de la foi. Verset 25, mais la foi est venue, nous ne sommes plus sous un conducteur de la loi qui parle. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ Jésus. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous avez revêtu Christ. Bon, il revient encore avec ce revêtir. Et il y a verset 28, et puis qui est souvent utilisé dans les différentes situations, surtout dans le cas où il vient que est-ce qu'une femme peut enseigner? Il y en a bien qui vont donner ce verset-là. On dit oui, elle peut enseigner. Mais parce que le Seigneur, il dit, il n'y a plus. Paul dit, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni mâle, ni femelle, ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un dans le Christ Jésus. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, le texte qu'on vient de voir ce soir, c'est encore une fois, ça vient nous conscientiser que la chose la plus importante dans nos vies, c'est de développer cette relation personnelle avec le Seigneur et à être patient. Est-ce qu'on a de la difficulté à être patient, de la difficulté? Le Seigneur est patient. Hein? Nous, on n'est pas patient, mais le Seigneur, il est pas dans le temps, lui. Il va nous faire attendre le temps que ça prendra. Et puis, il va attendre que le moment soit opportun pour nous effectuer des changements dans nos vies. Et puis tant qu'on n'aura pas appris à attendre le Seigneur en prière, attendre le Seigneur dans nos vies, et puis simplement profiter de cette paix que le Seigneur nous offre à travers Jésus-Christ, apprendre à vivre avec cette paix-là, d'être content, d'être conscient que nous sommes sauvés, que nos noms sont écrits dans les cieux, et puis qu'on peut se reposer. On peut se reposer, et puis on n'a pas à marcher sur la condamnation, faites ci, faites ça, faut faire ci, faut faire ça. Et puis, c'est un peu ce que Paul... vous voyez, c'était encore le même problème. Paul parle exactement du même problème qu'on voit aujourd'hui, où qu'on tente toujours de nous mettre des fardeaux dans les œuvres de la chair, dans les œuvres de différentes façons, soit par les cours, soit par l'évangélisation, soit par les... Mais vous savez que tout ce que le Seigneur, la parole nous dit, que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, la conviction, c'est qui la donne, mes amis? La conviction, c'est le Saint-Esprit qui donne la conviction. Et ça dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Imaginez que toutes ces choses-là, si je n'ai pas une conviction profonde à l'intérieur de moi de marcher dans cette direction, eh bien, ça dit que c'est un péché devant Dieu. Donc, je pense que je sers Dieu, souvent. Je peux penser que je sers Dieu de différentes façons, par mes œuvres, par tout ce que je fais, puis tout ce que j'ai fait, puis tout ce que je vais faire. Parce que je suis bien impliqué dans l'Église, parce que c'est pas mauvais d'être impliqué dans l'Église. Là. Je veux pas que vous pensiez que je dis que c'est mauvais. C'est pas ça que je dis. Est-ce que tu es en train de remplacer? La foi par la loi. Est-ce que ta valeur, vraiment, est-ce que tu as pris conscience que ta valeur, elle n'est pas par rapport à ce que tu fais. Elle est par rapport à qui Dieu est pour nous. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? C'est là qu'est notre valeur. Et comme Dieu est un Dieu 3x5, comme Dieu est un Dieu parfait, il ne change pas, lui. Donc, ça ne peut pas dépendre de nous parce qu'on a des corps déchus. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. On a des corps qui sont... qui sont vendus au péché. Et puis, donc, ça ne peut pas dépendre de nous. Parce qu'on serait voué, c'est pour ça qu'il dit, tu ne peux pas être sauvé par la loi. Tu ne peux pas être sauvé pour ce que tu fais. Parce que tu ne pourras pas. Tu n'as pas la capacité d'accomplir une telle loi. C'est impossible pour l'homme. Et puis, c'est ça que Dieu a fait en donnant une loi aux hommes. Alors, c'est pour leur montrer, vous voyez, vous en avez l'incapacité, et puis vous avez besoin d'un sauveur qui est Jésus-Christ. Mais maintenant que vous avez reçu ce sauveur, maintenant que vous avez été justifié par la foi, pourquoi avez-vous besoin de sentir que vous devez faire quelque chose? Pourquoi votre valeur est dans ce que vous faites encore? Vous n'avez pas besoin de rien faire pour que Dieu vous aime plus. Parce que Dieu vous aime déjà d'un amour incommensurable, d'un amour parfait, d'un amour divin, d'un amour agapé. La seule chose, c'est d'apprendre à attendre Dieu dans la prière, apprendre à parler avec Dieu, apprendre à parler avec son Seigneur, apprendre à recevoir l'instruction dans le silence, et puis attendre. Attendre. Et puis, un serviteur, quand on est serviteur, on n'a pas à prendre des décisions pour le Seigneur. On a à recevoir les instructions, s'approcher du trône et recevoir les instructions. C'est de ces serviteurs-là que le Seigneur a besoin. Donc, je vais terminer là-dessus ce soir en vous disant et en vous demandant, est-ce que vous êtes conscient que votre valeur n'est pas dans ce que vous faites? Elle est dans qui Dieu est pour vous. Est-ce que vous êtes conscient que la seule façon que vous avez de servir Dieu est d'entendre et d'attendre les instructions, de développer cette relation personnelle quotidiennement avec notre Seigneur, que notre Seigneur soit en premier et puis qu'il soit souverain et dans nos pensées, dans nos actions et puis dans tout ce qu'on fait. Amen. Donc, si vous voulez, on va remettre ça à notre Seigneur. On va demander au Seigneur de faire ces changements parce que par nous-mêmes, on ne peut rien faire. On va demander au Seigneur de venir cette semaine et puis qu'il nous montre le chemin. Qu'il nous montre le chemin, qu'il nous guide par son Saint-Esprit d'amour, son GPS divin. Et puis que nous puissions entrer dans son repos. Que nous puissions se reposer dans le Seigneur, dans ce monde perdu. Que nous puissions se réjouir, hein, parce que Paul dit « Réjouissez-vous ». Je répète « Réjouissez-vous en tout temps ». Donc, je ne sais pas si vous voyez le tableau du chrétien que Paul nous dépeint, mais c'est pas un chrétien qui fait qui va à l'église à tous les jours, puis qui suit tous les cours, puis qui fait toutes les... Non, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est une paix, qui a la paix du Seigneur, qui est calme, qui est serein, qui a la joie du Seigneur dans son cœur. Qui se réjouit qu'il a sauvé, que son nom est écrit dans les cieux, et puis qui attend les instructions, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, que le Seigneur lui montre, les œuvres qu'il a préparées pour lui, et puis qu'il puisse marcher dans le repos. Donc, Père, merci pour ces enseignements ce soir. Merci de nous rappeler que notre valeur, Seigneur, n'est pas dans ce que nous faisons, mais dans plus de qui tu es pour nous, ce que tu as fait pour nous. Parce que nous sommes tous en toi, Père. Et puis, on te prie, Seigneur, de nous faire prendre conscience que nous sommes libres. Libres des œuvres de la loi. Libres des faux faire puis des faire. Et puis, Seigneur, on te prie pour que tu puisses nous donner une révélation de combien c'est béni de marcher dans ta simplicité. Combien c'est béni de se reposer, Seigneur, d'avoir ton repos. Combien c'est béni d'avoir ta joie dans notre cœur, Seigneur. Et puis, on te prie vraiment pour que tu puisses faire que dans toutes les situations, on puisse se souvenir que ton plan est parfait, Seigneur, pour chacun de nous. Que ce que tu vas commencer, Seigneur, à l'intérieur de nous, et que tu l'achèveras, parce que tu es un Dieu fidèle, un Dieu miséricordieux. Et puis, on veut te rendre gloire, toute la gloire, Seigneur, ce soir. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus, par qui toute chose est possible, par qui... nous pouvons avoir la rédemption de nos péchés, par qui nous avons l'accès à l'éternité. Et puis, merci Seigneur que tu nous as choisis, mis à part, pour que nous puissions te servir, Seigneur. Et puis, c'est en ton nom qu'on te prie. Amen. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Puissiez-vous marcher dans le calme et la paix, dans le repos du Seigneur. Puis que la paix soit sur, de Jésus-Christ soit sur vous et sur vos maisons, comme Paul disait. Bye bye tout le monde. Que Dieu vous bénisse.